France Inter.
Journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le ramadan sans trêve à Gaza, c'est le scénario que les négociateurs voulaient absolument éviter au Proche-Orient. Nous serons sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est où l'on craint une extension des violences pendant ce mois de jeûne qui débute aujourd'hui. En France, l'Assemblée sera-t-elle aujourd'hui le théâtre d'un nouveau revers pour le gouvernement? On va y discuter de la réforme de la sûreté nucléaire avec une réorganisation qui ne passe pas, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, Monique Olivier à nouveau interrogée dans un cold case. Une photo retouchée de Kate Middleton relance les spéculations sur sa santé. Et les JO seront-ils vraiment accessibles aux visiteurs handicapés? On a testé les équipements prévus pour cet été.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, membre de la conférence des évêques de France.
France Inter.
Faut-il redouter que la situation ne s'enflamme encore davantage au Proche-Orient?
C'est aujourd'hui le début du ramadan dans de nombreux pays musulmans, dont les territoires palestiniens. Et les combats se poursuivent tout de même à Gaza. 85 morts ces dernières 24 heures selon le Hamas. La trêve tant espérée pour ce mois de jeûne n'a jamais été scellée. Ce qui fait craindre, oui, la multiplication de nouveaux foyers de tension dans les jours à venir. En particulier à Jérusalem-Est, où selon Washington, la situation peut devenir très dangereuse sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Thibault Lefèvre, vous vous y êtes rendu pour Inter et vous confirmez cette atmosphère de crispation et de colère.
Les premiers filtrages sont installés aux portes de la vieille ville. Pendant un mois, un millier de policiers sont mobilisés la semaine, 2500 le week-end sur un espace de moins d'un kilomètre carré. Aux entrées de l'esplanade des mosquées que les juifs appellent le mont du temple, les hommes les plus jeunes sont bloqués, le tri se fait au faciès, alors la prière s'organise à l'extérieur. Mohamed, la trentaine, installe son tapis dans une ruelle.
C'est très important pour nous d'aller à l'intérieur et de prier. Il y a beaucoup de gens qui viennent pendant cette période du nord de la Cisjordanie occupée pour prier. Ils t'empêchent d'entrer et ils prient donc dehors. Ça va les mettre en colère et ils vont très mal le vivre.
Seuls les plus anciens sont autorisés pour le moment à accéder à l'esplanade des mosquées. Hadj Mohamed fait ses ablutions et se prépare à la prière.
Moi, j'ai 77 ans. En ce moment, les jeunes ne peuvent pas entrer ici. L'accès dépend de l'humeur des policiers israéliens postés aux portes de la mosquée. Ils ne respectent ni les jeunes, ni les vieux. À mon âge, ça m'est arrivé qu'ils me disent « dégage d'ici ».
Ces restrictions et surtout l'attitude de la police pourraient donc attiser une situation déjà inflammable. Pendant au moins la première semaine du ramadan, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de ne pas durcir les règles.
Netanyahou qui répond sèchement ce matin à Joe Biden. Ce week-end, le président américain lui a reproché de faire plus de mal que de bien à Israël avec sa conduite de la guerre. Il a tort, réplique le premier ministre de l'État hébreu. Ma politique est soutenue par une majorité écrasante d'Israéliens. Fin de citation. L'actualité à l'étranger ce matin, c'est aussi le Portugal et cette forte poussée de l'extrême droite inédite depuis la fin de la dictature. À l'issue des législatives, hier, le parti populiste Chega fait plus que doubler son score. Près de 50 sièges au Parlement, il devient la troisième force politique du pays. En tête, le centre droit, d'un cheveu devant la gauche sortante, mais sans majorité absolue. Nous serons à Lisbonne dans le journal de 8h.
Il y a 13 ans jour pour jour, Alexis, la catastrophe nucléaire de Fukushima.
Mais c'est bien par un pur hasard du calendrier que l'Assemblée nationale examine aujourd'hui en séance la réforme de la sûreté nucléaire en France et cette fusion controversée entre les deux autorités de contrôle de la filière, l'ASN et l'IRSN. Ce n'est pas gagné pour le gouvernement. Les députés l'ont à nouveau rejeté en commission la semaine dernière et le groupe Liot a déposé pour aujourd'hui une motion de rejet préalable. Si elle est votée, Laurence Perron, l'examen du texte s'arrêtera à peine commencé.
L'Élysée sait que la situation est critique puisque les oppositions dépassent les clivages politiques. L'ex-député macroniste, le mathématicien Cédric Villani, dénonce l'argument plus de fluidité défendue par le gouvernement.
Derrière cette fluidité, ça peut être des rapports moins transparents. Ce que nous voyons, et j'ai pris position avec deux autres anciens présidents de l'Office parlementaire scientifique, Claude Birot, tendance Les Républicains, Jean-Yves Le Déo, tendance socialiste, ce projet de réforme est une folie technocratique inutile et dangereuse.
Fusionner l'autorité chargée de contrôler les installations nucléaires et les experts scientifiques indépendants, c'est démanteler un système que le monde nous envie, estime l'écologiste Julie Lernos.
On a été la risée en matière de sûreté et de sécurité après le drame de Tchernobyl. Vous vous rappelez, le nuage n'avait pas passé nos frontières. Ça a été un électrochoc et on a réformé. Aujourd'hui, on veut le mettre par terre au moment où on relance le nucléaire. Ça serait une catastrophe absolue.
Les parlementaires contestent aussi l'absence de rapport préalable sur les conséquences de cette fusion. Le ministre chargé de l'industrie, Roland Lescure, balaye l'opposition.
On est en train de rapprocher deux organisations qui se connaissent, qui travaillent déjà ensemble. On n'est pas en train de construire des pyramides, là.
Il existe pourtant bien un rapport, rédigé par un ancien administrateur du commissariat à l'énergie atomique, mais il a été classé confidentiel.
Autre projet de loi extrêmement sensible, la fin de vie. On connaît ce matin les intentions de l'exécutif. Après plusieurs reports, Emmanuel Macron vient de dévoiler les grandes lignes du texte qui sera présenté dès le mois prochain en Conseil des ministres. Une aide à mourir sous conditions strictes, à la demande du patient atteint d'une maladie incurable et si ses médecins donnent leur accord. Celui-ci pourra s'auto-administrer la substance létale ou avec l'aide d'un proche ou d'un soignant. Le chef de l'État ne veut pas utiliser les mots, mais pour les spécialistes, il s'agit bien d'un suicide assisté avec exception d'euthanasie. Projet dénoncé ce matin par la Société française des soins palliatifs. Quant à l'inverse, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité salue une avancée. On va y revenir donc avec notre invité à 7h50. Les recherches reprennent ce matin dans le Gard et l'Ardèche pour tenter de retrouver les 4 personnes encore portées disparues après les intempéries du week-end, dont un père et ses 2 enfants. Plus de 300 secouristes mobilisés. Ils ont jusque-là récupéré 3 corps dans les rivières en crue. 3 mois après sa condamnation à perpétuité, Monique Olivier est de retour au tribunal, pas aux assises, mais pour être entendue par une juge d'instruction du pôle Cold Case de Nanterre. Cette fois, l'ex-femme de Michel Fourniret doit être interrogée sur la disparition il y a plus de 30 ans de Lydie Loger. C'était dans l'Orne. Les explications de David Di Giacomo.
Le 18 décembre 1993, Lydie Loger, 29 ans, se volatilise juste après avoir fait ses courses de Noël. Maman d'un petit garçon, sa disparition va rester un mystère pendant 25 ans. Le coup de théâtre survient en 2018. Son profil ADN est identifié dans la camionnette de Michel Fourniret. Le tueur en série reconnaît alors à demi-mot ce nouveau crime, mais il meurt quelques mois seulement après sa mise en examen dans cette affaire. Poursuivi pour complicité, Monique Olivier se retrouve donc aujourd'hui dans le cabinet de la juge d'instruction Sabine Kéris, avec qui une relation de confiance s'est nouée au fil des années et des interrogatoires. L'espoir des sœurs de Lydie Loger, c'est d'enfin connaître la vérité. Leur avocate, Corinne Herman, attend de Monique Olivier qu'elle donne des précisions sur les circonstances de l'enlèvement de la jeune femme, voire aussi sur l'endroit où son corps pourrait se trouver.
L'image avait marqué les esprits en plein conflit social contre la réforme des retraites il y a presque un an. À Bordeaux, l'imposante porte en bois de l'hôtel de ville en flammes au soir d'une nouvelle manifestation tendue. Les 5 incendiaires présumés sont jugés aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Le plus jeune a 19 ans, le plus âgé 41. À l'époque, ces violences s'ajoutant à d'autres avaient contraint le roi Charles d'Angleterre à reporter sa visite en France, en particulier donc à Bordeaux. La monarchie britannique à nouveau au cœur des critiques et des soupçons ce matin après la publication d'une photo de la princesse Kate, la première depuis la mystérieuse opération qu'elle a subie en janvier dernier. Le palais de Kensington voulait rassurer ce week-end. Eh bien, c'est raté. Les principales agences de presse mondiales viennent de retirer le cliché. Il est, selon elles, bien trop retouché. France Inter à Londres, Richard Place.
Kate Middleton assise, radieuse, au milieu de ses 3 enfants, grand sourire pour tout le monde. Photo publiée le jour de la fête des mères, avec les remerciements de la princesse pour le soutien populaire reçu ces 2 derniers mois. Sauf qu'en examinant l'image de plus près, on remarque des retouches grossières, notamment sur le poignet de Charlotte, la fille du couple princier. Dans la soirée, les principales agences internationales de presse, AFP, AP, Reuters, ont toutes décidé de retirer le cliché de leur serveur. L'affaire se retrouve ce matin en une du Times et du Telegraph. Le mystère autour de l'opération qu'elle a subie attise les rumeurs les plus folles ici. Elle qui est d'habitude si présente dans dans le quotidien des Britanniques, a disparu depuis plus de 2 mois. Le Télégraphe écrit d'ailleurs qu'elle fait l'objet des théories du complot les plus extraordinaires de l'histoire royale moderne. Cette manipulation renforce l'impression que le palais veut cacher quelque chose, même si ce n'est pas la première fois que des clichés officiels font l'objet de retouches visibles. Londres, Richard Place, France Inter.
Pas de gaffe, de gifle, ni de grosses surprises cette nuit à Hollywood. Comme attendu, Oppenheimer rafle l'essentiel des trophées aux Oscars. 7 récompenses, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisation pour Christopher Nolan et du meilleur acteur pour l'Irlandais Cillian Murphy. Mais les Français d'Anatomie d'une chute ne repartent pas bredouille grâce à l'Oscar du meilleur scénario original. Réaction de la réalisatrice Justine Triet à lire dès maintenant sur franceinter.fr.
Il est 7h40, c'est l'une des promesses fortes des organisateurs des Jeux de Paris.
Des Jeux Olympiques et Paralympiques accessibles aux spectateurs handicapés. 350 000 d'entre eux sont attendus cet été, mais la capitale est-elle prête à les accueillir? Depuis un an, des experts eux-mêmes en situation de handicap sont régulièrement sollicités pour tester les équipements, comme ce week-end à l'occasion des internationaux de badminton. Sébastien Sabiron y était.
On laisse sortir tout le monde et on y va.
Première difficulté pour Alain en fauteuil électrique, se frayer un chemin dans un tramway bondé.
Normalement, c'est là que l'on devrait se mettre. C'est réservé au PMR.
Question de civisme, car à Paris, tous les bus et trams sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le groupe se dirige ensuite vers l'Adidas Arena, sauf que les feux tricolores dysfonctionnent.
Mara cherche la bande.
Bernadette, malvoyante, et sa chienne Mara.
Normalement, les feux marchent. Sinon, je le fais à l'oreille. Là, si la voiture s'arrête à droite, je sais que je peux passer. Et je sais que je peux me faire renverser par un cycliste qui respecte pas les feux.
Julien, lui, est venu à bord d'une des 150 navettes accessibles aux fauteuils qui, pour 4 euros, relieront les gares parisiennes au site olympique. Très satisfait de l'expérience.
Il y avait des détails qui étaient vraiment bloquants. Aujourd'hui, ces détails ont été effacés. Et on se rend compte que la capitale, elle est finalement accessible.
Rouge, piéton.
Donc on pourrait toujours dire, on aurait préféré que tout soit accessible, y compris les métros. On a trouvé des méthodes alternatives. Il faut aller plus loin.
Car la mise en accessibilité du métro parisien historique demeure extrêmement complexe et coûteuse. Mais les Jeux sont déjà un accélérateur, estime Véronique, handicapée moteur.
La perspective des Jeux a bousculé tout le monde dans un temps record quand même. Les trains, les gares, l'héritage des Jeux sera très très important.
À l'horizon des Jeux, 1 millier de taxis franciliens seront accessibles aux fauteuils roulants contre environ 200 jusqu'à présent.
Et à moins de 5 mois de ces Jeux, cette bonne nouvelle pour l'escrime française. L'épéiste Yannick Borel remporte le Grand Prix de Budapest, principale épreuve du circuit international de la discipline. Sa première victoire individuelle depuis 2 ans, ce qui fait de lui donc une chance de médaille sous la verrière du Grand Palais cet été.
Merci Alexis Morel. À suivre les éditos politiques et échos.